Alors, le thème, c'est la mort selon la Bible, ce que Dieu en dit. Et pourquoi, je vous dis pourquoi j'ai regardé ça un peu plus près. Le 8 octobre, il y avait dans le calendrier de la bonne semence, il y avait un verset qui m'a interpellé. C'est un verset dans les Proverbes. Mais d'abord, je voudrais dire par rapport au Proverbe, c'est Pasteur Texier qui a enseigné ça ou qui l'a dit, je ne sais plus où, mais le livre des Proverbes, ce n'est pas un livre doctrinal, c'est-à-dire on n'en tire pas une doctrine parce que ce sont des généralités, mais ces généralités peuvent appuyer une doctrine. Et donc ce verset, c'est Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voilà, c'est pour ça que je me suis penché sur ce sujet. Et puis d'abord, ça m'arrive quand nous allons évangéliser, que encore hier, j'ai demandé, il y avait une jeune qui dit, je demandais si elle croyait. Ah oh non, pas du tout, elle fait. Puis je dis, mais vous croyez que vous allez mourir? Vous voyez, je demande ça. Et bien sûr, tout le monde croit ça. Tout le monde le croit, mais ce n'est pas la preuve. On n'a pas la preuve qu'on va mourir. Hein? C'est une sorte d'expérience qu'on voit autour de nous, mais c'est pas une. Et nous, on a cet espoir peut-être de faire partie un jour du wagon exceptionnel où on meurt pas, mais on va directement au ciel. Ça serait tellement génial, mais je sais pas si on fait partie de cette élite-là. Je ne sais pas si c'est le moment. Seul Dieu le sait, ça. Voilà. Alors, personne ne dit jamais « je ne crois pas à la mort ». Ça, c'est vrai. Et puis, vous savez qu'on va bientôt avoir le 1er novembre et surtout pour les catholiques, il y a une foule qui va se précipiter dans les cimetières par rapport au 1er novembre. Et on pourrait presque appeler ça la foi minimaliste. On croit qu'on va mourir, ça c'est sûr, on croit. Voilà. Alors, dans la Bible, la première mention, évidemment, c'est en Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je me suis dit, mais j'ai même posé la question une fois, je ne me rappelle pas ce qu'il a répondu à Pasteur Texier. Comment Adam et Ève pouvaient savoir ce que c'est la mort? Hein? Comment Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont vu des animaux juste quand la création était terminée, au bout de sixième jour, ils ont été créés. Est-ce qu'ils ont vu des animaux déjà mourir? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont vraiment compris? Est-ce que dans leur innocence, ils ne concevaient pas vraiment la signification, peut-être, de là venait aussi leur légèreté par rapport à ça, quand Satan les a tentés. N'empêche que Ève a rapporté de suite au diable ce que Dieu leur avait demandé de respecter, c'est-à-dire en Genèse 3:3, Mais donc, ça commence au verset 3 de « La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors, j'ai regardé un peu dans l'Ancien Testament ce qui tourne autour de mort, la mort. Et il y a peut-être davantage de termes, mais j'ai trouvé deux mots hébreux. Et il y en a un qui... Le terme est traduit par « mourir, périr » ou « la mort »,« mort », donc, 836 fois. Et le mot, ce n'est pas très intéressant, on va tout de suite oublier. C'est « muvd », M-U-W-T-H. Ensuite, un autre terme, « mort, mourir, mortel, peste ». Il figure 160 fois. Et c'est Mavet. Alors, hein? 160 fois. Oui, Mavet. M-A-V-E-T-H. Mais ce n'est pas très important, ça, ce terme. C'est juste. Moi, c'est plus. Quelque chose d'anodin, puisque l'Ancien Testament fait beaucoup mention de du verbe ou du sujet mort ou mourir mortel. C'est un thème très courant. Dans le Nouveau Testament, alors il y a un certain nombre de mots et j'en ai vu trois après que je pense qu'ils ont donné des mots qu'on utilise aujourd'hui, de nos jours. Et je vais d'abord commencer par mort, mourant, futur, mourrait, passé, oui, c'est le passé, mortel, 119 fois, ça donne, c'est du mot Thanatos, T-H-A-N-A-T-O-S. Alors j'ai regardé ça dans le Larousse. Il y a d'autres significations, mais il y a la thanatologie. Est-ce que vous connaissez? Oui. Hein?
Ce qui est la connaissance de comment
vous mettez. Étude ou signe, condition et nature de la mort, surtout en médecine légale. Alors je pense qu'actuellement c'est vraiment d'actualité en Ukraine, hein, où ils déterrent les morts. Hein. Thanatologie. Mais le mot lui-même, thanatos, est même mentionné dans le Larousse. Vous regarderez vous-même. Je n'ai pas tout noté. Hein. Ensuite, être mort, mourir, puni de mort, 10 fois. Et c'est téléeutao. Téléeutao, là, il n'y a pas d'équivalence dans le Larousse. Un autre, tuer, faire mourir, mettre à mort, 74 fois, apokteino. Encore un autre, mort. Mort pluriel, morte, féminin, inutile, 130 fois, c'est nécros. Alors, nécros, on connaît. Hein? Nécrologie, c'est très connu dans les journées, c'est les avis de décès. Voilà. Ensuite, nous avons mourir, morte, 113 fois, c'est apotnesco. Apotnesco. Mort, être mort, morte, 11 fois, c'est sans le apo, c'est tnesco. Ensuite, nous avons tué, mettre à mort, faire mourir 23 fois, anaireo, anaireo. Un autre, et peut-être ça, je suis pas sûr, mais rien que l'entendre en grec, c'est dormir, s'endormir, être mort, 18 fois. Et c'est le mot koimao. Alors, qu'est-ce que ça nous rappelle? Le coma. À mon avis, c'est coma. Le terme grec pour coma, c'est coma. Je crois que c'est coma. Ben, j'ai mal noté. Mais coma, ça résonne comme coma. Ensuite, une seule fois. Et dans le Nouveau Testament, nous avons condamné à mort, epithanatios. Et epithanatios, nous le trouvons dans 1 Corinthiens 4:9, car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte. Puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Si on réfléchit un instant, ce n'est pas comme ça malheureusement, s'il n'y avait pas eu transgression par Adam, nous ne connaîtrions pas la notion même de la mort. Adam et tous les descendants, nous y compris, nous serions des êtres innocents et vivants pour toujours et à la ressemblance parfaite de Dieu. Pas besoin d'être sanctifié, on serait déjà comme ça. Initialement, c'était l'intention de Dieu que toute sa création soit parfaite. Hélas, ça ne s'est pas passé ainsi. La mort est encore omniprésente. Et je vais dire quelque chose que je crois que c'est vrai, c'est que la mort vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné la mort. C'est sa manière de rendre la justice parfaite. Justice parfaite qui s'est appliquée à soi-même en substitution à nous tous. Mais Dieu qualifie plus loin, dans 1 Corinthiens 15-26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, il le qualifie d'ennemi, la mort. Et en quelque sorte, nous avons... une sorte d'outil de donner la mort. C'est une sorte d'outil. Et malheureusement, le diable et même nous, les hommes, nous en abusons de cet outil de faire mourir. Et pensez aux avortements que les hommes décident. Mais le diable aussi, il fait mourir. Mais dans Luc, où est-ce que j'ai mis ce verset? Il faudrait que je l'ouvre. Je sais quel est. Si quelqu'un veut le lire, Luc 12, 5. En Luc 12, 5. Vous voulez les lire? Oui.
Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre.
Ça veut dire, on comprend qui c'est qu'on doit craindre. On doit on doit respecter. C'est Dieu. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. C'est lui qui met en enfer. C'est pas le diable. Hein. Le diable tente pour qu'on soit condamnable pour l'enfer. Hein. Souvent, on pense que c'est le diable qui met en enfer, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot sur notre vie. D'ailleurs, il sait déjà quand je vais mourir, moi. Il sait déjà quand vous allez mourir. Et donc, il peut aussi tuer Dieu. Et parfois, je crois que si Dieu tue, c'est bénéfique pour nous. Parce que c'est qu'il rappelle celui qui lui appartient. Il peut rappeler quelqu'un qui lui appartient. Ou bien il est là pour arrêter les souffrances de la chair dans ce monde. Donc c'est quelque chose de positif, alors que les autres morts, ce sont des incertitudes sur la destination. Hein, ouais, parce qu'on doit croire pour avoir droit à la vie éternelle. Évidemment, l'opposé justement de la mort, c'est la vie, et il y en a deux, nous savons. Il y a la vie bios, ça donnait la biologie, entre autres, sûrement d'autres expressions qui commencent par bio. On mange même bio. Hein. Dans le Nouveau Testament, le mot bios est utilisé que 10 fois. Alors que la deuxième vie, Zoé, qui a donné la Renault Zoé, je ne sais pas s'ils connaissent même l'expression chez le constructeur, c'est 126 fois dans le Nouveau Testament, la vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est Dieu qui la gère en quelque sorte. Qu'on dit que la vie bios, il nous la prête. Et il la soumet à la mort physique. La mort de bios, tout le monde y passe. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses, pasteur Tony? Est-ce que si nous étions dans ceux qui sont enlevés, est-ce que nous allons mourir quand même, biologiquement, je suppose, si nous sommes transformés? Mais sans douleur, je pense, peut-être. Ouais.
Ouais.
D'accord. Ok. Et donc Dieu nous prête cette vie. Il met le souffle dans cette vie. Et Dieu nous recommande de considérer la vie Zoé comme plus importante que la vie bios. Dieu, c'est ça qui l'intéresse, ma vie bios. Et il y a quelque chose, hein? Ah, Zoé, pardon, oui. Et il y a quelque chose d'intéressant, j'avais sorti ça là, dans le livre de, comment il s'appelle, c'est chinois, hein? Watchman Nee, oui. Je crois que c'est l'homme spirituel, je crois. C'est un gros bouquin. Et ça m'avait impressionné qu'il dit qu'il faut se rendre compte. 1 Thessaloniciens 5:23. Dans quel ordre mon être est cité? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, c'est-à-dire on a trois choses, votre être, l'esprit est en premier, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que l'esprit l'esprit dans l'homme, dans l'être humain, est la connexion spirituelle à la vie de Dieu. Donc, c'est pour ça que ça affirme que Dieu nous recommande de considérer la vie Zoé comme plus importante que la vie Bios. Et Dieu a dit qu'il nous invite à le choisir, lui. Choisir, lui. Et il continue à nous le dire et nous dire de le dire à d'autres, de choisir Dieu. Et ce mot est très simple, croix, croix. Et c'est Deutéronome 30, 15 à 19 qu'on peut citer par rapport à ça. Lorsque Israël reçoit le rappel des choses, on dit à Israël, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Bien sûr, nous n'entrons pas en possession d'une nation ou d'un pays, mais nous sommes cohéritiers de Christ. C'est pas rien, ça. Et le premier commandement, ça a aussi une énorme valeur pour nous. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Comment on peut croire en lui si on l'aime? Comment on peut ne pas aimer Dieu si on croit en lui? Ça va de pair, ça. Croire, c'est aimer Dieu. Ouais. Mais si ton cœur se détourne, c'est verset 17 dans Deutéronome 30, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Par rapport à Israël, il me semble qu'il y avait, une foule de gens d'Égypte, mais qui n'étaient pas vraiment croyants, qui suivaient Israël dans leur exode. C'est quelque part dans Exode, c'est marqué ça. Et ensuite, au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Voilà. Toujours par rapport à ces deux vies, nous devons avouer que notre tendance naturelle est de privilégier notre vie bios. Nous regardons pas loin, nous regardons tout près, c'est ça qui nous intéresse. Mais nous devons nous rendre compte que dans ce monde, il y a tellement d'efforts qui sont faits pour la vie bios. On veut avoir un bon travail, on ne se satisfait pas de n'importe quoi, on veut avoir suffisamment de nourriture, On veut être en bonne santé. On veut que nos émotions soient satisfaites. On veut avoir du plaisir. On veut des loisirs. On veut même des choses inutiles. Et on a notre propre et on peut dire vaine gloire. On cherche aussi parfois de façon exagérée d'avoir une apparence particulièrement spectaculaire et belle. Et il y a des recherches aussi qui se font de façon acharnée pour prolonger la vie, la durée de la vie. Même la guerre, on peut citer comme intérêt bios, parce qu'on veut, un dirigeant veut plus, il veut dominer plus. Et dans la vie bios, nous retrouvons mensonges, violences, les vols, la perversité, les injustices. Et énormément de métiers sont créés même pour faire fonctionner tout cela. Hein, ce qu'on vous pense. Hein?
L'origine de bios.
Bios, oui. Oui. Dans la vie bios, nous avons plein de choses. Ouais. Certes, il faut des médecins, il faut des soignants, il faut des ingénieurs, il faut des savants, il faut des chercheurs, mais il faudrait un peu d'éthique là-dedans. Et cette vie bios, elle disparaîtra. Soit la vie bios disparaît pour devenir une vie zoé, éternelle, soit elle aboutit en une mort éternelle via la seconde mort. En Romains 5, versets 6 à 8, Paul il utilise plusieurs fois le mot mourir, car donc Romains 5, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et pourquoi la mort est entrée dans le monde? Ça aussi, Romains 5 le dit. Au verset 5-12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et verset 5:21, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensuite, nous avons le verset 5-14 en Romains. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ça me paraissait un peu bizarre. Je regardais les commentaires bibliques et là-dessus, ils disent que l'existence du péché entre la période d'Adam et le don de la loi, qui est bien après Noé, etc., elle est prouvée par le fait que la mort a régné entre Adam et jusqu'à Moïse. Il y avait déjà la mort, donc c'est le péché qui est la cause de la mort, le péché. Oui. Jésus a parlé à l'intention d'un disciple. Il lui a dit en quelque sorte qu'il est plus important de le suivre lui que de se préoccuper des questions matérielles. Suivre Jésus doit avoir la priorité. Et en Matthieu 8, 21 à 22, nous lisons ça, c'est cette histoire-là à laquelle je me réfère. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ceux qui sont morts spirituellement peuvent s'occuper de ceux qui le sont physiquement. Donc, c'est prioritairement laisser ce soin à ceux qui sont non-croyants. Et en réalité, par rapport à ce qui s'est passé avec Jésus dans ces versets, c'est le père, enfin, de ce disciple que l'autre disait, je veux d'abord l'ensevelir. Ça ne voulait pas dire qu'il était mort. Il n'était pas encore mort. Ce disciple voulait d'abord passer sa vie avec son père jusqu'à la mort de ce dernier, hériter ensuite de son père et ensuite de nouveau suivre Jésus. C'est ça qu'en réalité ce passage. Moi, c'est comme une exhortation. Croyons que nous ressusciterons. C'est important. Croyons que c'est réel et que c'est vrai. C'est réel et c'est vrai. En 1 Corinthiens 15, 19, Paul écrit, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre certitude... parce que nous croyons, c'est que notre vie bios sera supplantée par notre vie zoé. 1 Corinthiens 15, 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et en conclusion, quelqu'un peut... peut-être me lire le psaume 116, verset 15.
Elle a dû prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment.
Super. Ouais. Voyez-vous, voyez, si nous aimons Dieu, nous avons plus de valeur que nous donnons. Et bon, dans la version Darby, il est dit « Précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses saints. » Voilà. Amen.